Tant que l'utilité dominante dans les appréciations de valeur morale était seule l'utilité pour le troupeau, tant que le regard était uniquement tourné vers le maintien de la communauté, que l'on trouvait l'immoralité exactement et exclusivement dans ce qui paraissait dangereux à l'existence de la communauté, il ne pouvait pas y avoir de morale altruiste. Admettons que, même alors, il existait un usage constant dans les petits égards, dans la pitié, l'équité, la douceur, la réciprocité et l'aide mutuelle. Admettons que, dans cet état de la société, tous ces instincts que l'on honorera plus tard sous le nom de vertu et que l'on finit par identifier presque avec l'idée de moralité, étaient déjà en pleine action. Néanmoins, à cette époque, ils n'appartenaient pas encore au domaine des appréciations morales. Ils étaient encore en dehors de la morale. Un acte de pitié, par exemple, à l'époque florissante des Romains, n'était appelé ni bon, ni mauvais, ni moral, ni immoral. Et quand même on l'aurait loué, cet éloge se serait mieux accordé avec une sorte de dépréciation involontaire, dès que l'on aurait comparé avec lui un acte qui servait au progrès du bien public, de la res publica. Enfin, l'amour du prochain restait toujours quelque chose de secondaire, de conventionnel en partie, quelque chose de presque arbitraire si on le comparait à la crainte du prochain. Lorsque la structure de la société parut solidement établie dans son ensemble, assurée comme les champs extérieurs, ce fut cette crainte du prochain qui créa de nouvelles perspectives d'appréciation morale. Certains instincts forts et dangereux, tels que l'esprit d'entreprise, la folle témérité, l'esprit de vengeance, l'astuce, la rapidité, l'ambition, qui jusqu'à ce moment, au point de vue de l'utilité publique, n'avaient pas seulement été honorés, bien entendu sous d'autres noms, mais qu'il était nécessaire de fortifier et de nourrir, parce que l'on avait constamment besoin d'eux dans le péril commun, contre les ennemis communs, ces instincts ne sont plus considérés dès lors que par leur double côté dangereux, maintenant que les canaux de dérivation manquent pour eux. Et peu à peu, on se met à les marquer de flétrissures, à les appeler immoraux, on les abandonne à la calomnie. Maintenant, les instincts et les penchants contraires ont la suprématie en morale, et l'instinct de troupeau tire progressivement ses conséquences. Quelle est la quantité de danger pour la communauté et pour l'égalité que contient une opinion, un état, un sentiment, une volonté, une prédisposition? C'est la perspective morale que l'on envisage maintenant. Mais là encore, la crainte est la mère de toute morale. Ce sont les instincts les plus élevés, les plus forts, quand ils se manifestent avec emportement, qui poussent l'individu en dehors et bien au-dessus de la moyenne et des bas-fonds de la conscience du troupeau, qui font périr la notion d'autonomie dans la communauté et détruisent chez celle-ci la foi en elle-même, ce que l'on peut appeler son épine dorsale. Voilà pourquoi ce seront ces instincts que l'on flétrira et que l'on calomniera le plus. L'intellectualité supérieure et indépendante, la volonté de solitude, la grande raison apparaissent déjà comme des dangers. Tout ce qui élève l'individu au-dessus du troupeau, tout ce qui fait peur au prochain s'appelle dès lors méchant. L'esprit tolérant, modeste, soumis, égalitaire, qui possède des désirs mesurés et médiocres, se fait un renom et parvient à des honneurs moraux. Enfin, dans les conditions très pacifiques, l'occasion se fait de plus en plus rare, de même que la nécessité qui impose aux sentiments la sévérité et la dureté. Et, dès lors, la moindre sévérité, même en justice, commence à troubler la conscience. Une noblesse hautaine et sévère, le sentiment de la responsabilité de soi, viennent presque à blesser et provoquent la méfiance. L'agneau, mieux encore le mouton, gagne en considération. Il y a un point de faiblesse maladive et d'affaiblissement dans l'histoire de la société, où elle prend parti même pour son ennemi, pour le criminel, et cela sérieusement et honnêtement. Punir lui semble parfois injuste. Il est certain que l'idée de punition et d'obligation de punir lui fait mal et l'effraie. Ouvrez les guillemets. Ne suffit-il pas de rendre le criminel incapable de nuire? Pourquoi punir? Punir même est terrible. Fermez les guillemets. Par cette question, la morale de troupeau, la morale de la crainte tire sa dernière conséquence. En admettant d'ailleurs qu'on pût supprimer le danger, le motif de craindre, on aurait en même temps supprimé cette morale. Elle ne se considérerait plus elle-même comme nécessaire. Celui qui examine la conscience de l'Européen d'aujourd'hui trouvera toujours à tirer des mille replis et des mille cachettes morales le même impératif, l'impératif de la terreur du troupeau. Ouvrez les guillemets. Nous voulons qu'à un moment donné, il n'y ait rien à craindre. Fermez les guillemets. À un moment donné. la volonté, le chemin qui y mène, s'appelle aujourd'hui dans toute l'Europe progrès.